7 milliards de voisins avec Emmanuel Bastide pour les voisins et les voisines.
Bonjour, bienvenue, 7 milliards de voisins sur RFI. Comme chaque vendredi, place à l'éducation, à la formation. Aujourd'hui, les étudiants européens ou américains dans les campus africains. Ils sont à peine une poignée, on les repère en général de loin. Alors pourquoi ont-ils choisi de passer un semestre, un an dans une université sur le continent le plus en retard dans le domaine de l'enseignement? Comment s'intègre cette minorité très visible? Qu'apprennent-ils pour leur futur professionnel? On va en parler avec vous, Capucine. Edou, bonjour.
Bonjour.
Vous appartenez à la direction internationale de Sciences Po. Vous dirigez le centre Asie, Pacifique, Afrique, Moyen-Orient. Vous connaissez bien l'Afrique parce que auparavant, vous avez travaillé tout particulièrement à la valorisation du continent africain sur le campus de Sciences Po, ce qui est pas simple au départ.
C'est vrai que c'était un enjeu important pour Sciences Po qui s'est beaucoup développé à l'international et qui a commencé son développement en direction du continent africain en dernier. En fait, c'est le dernier continent vers lequel on s'est développé. Mais maintenant, on a à peu près une vingtaine d'universités partenaires en Afrique.
Mais les étudiants de Sciences Po Paris qui partent pour la troisième année, donc la fin de la licence à l'étranger, c'est obligatoire de partir un an à l'étranger. Ceux qui choisissent l'Afrique subsaharienne, ils sont combien par rapport à la totalité des étudiants qui partent à l'étranger?
Aujourd'hui, il y a entre 20 et 30 étudiants qui partent en Afrique subsaharienne pour une année complète sur un campus universitaire. Donc 30 en Afrique et à peu près 1500 qui partent dans le monde entier.
D'accord. Voilà. Alors, des aventuriers ou des visionnaires, on va y répondre pendant l'émission. Amaury Lefranc et Malo Le Segretin, bonjour à tous les deux.
Bonjour, Miguel.
Bonjour.
Vous êtes étudiant à Lille, à l'IESEG, qui est une école de commerce. Mm-hmm. Vous avez choisi, vous, de passer 7 mois à l'ISM, à Dakar. L'ISM, c'est l'Institut supérieur de management de Dakar. En fin de troisième année, c'est ça?
C'est ça,
en licence, hein, fin de licence. Le bilan en deux mots, là, sans langue de bois, 7 mois après?
Très enrichissant, nouveau, belle expérience.
Et puis quelque chose qu'on n'oubliera jamais non plus, vraiment mémorable.
Exactement.
C'est quelque chose qui nous a vraiment plu, on est très heureux de l'avoir fait. C'est vrai qu'on a fait partie des peu d'étudiants de l'ISEG qui ont choisi de partir en Afrique. On est vraiment très contents d'avoir fait.
Les premiers aussi. Ouais,
bon, aventurier ou visionnaire, on va y répondre sans langue de bois pendant l'émission. Et quant à vous, bien sûr, les voisines et les voisins, vous pouvez poser toutes vos questions aux étudiants qui sont dans le studio ou bien sûr apporter votre point de vue. Si vous êtes étudiant dans les campus africains, si vous fréquentez des étudiants venus des États-Unis ou d'Europe, n'attendez pas la fin de l'émission, surtout pour dialoguer avec nos invités. 33 1 84 22 71 71. Je vous lis quelques messages parvenus sur le fil Facebook. Étonnement et curiosité des voisins, évidemment, pour le sujet du jour. Elisa qui nous dit « Moi, j'étudie à l'université d'Antananarivo à Madagascar et j'avoue que je trouve ça très curieux parce que les étudiants de chez nous veulent obtenir des bourses pour aller en France et aux États-Unis. » Ou encore Eli à Goma, à l'est de la République du Congo, la RDC. « Pourquoi l'Afrique n'ont-ils pas confiance en leurs universités ?» Ou encore vous avez tout de suite le soupçon. Hein. Olivier à Abidjan nous dit ici à l'université Félix Houphouët-Boigny à Abidjan, Côte d'Ivoire, je les vois chaque jour, je trouve ça génial. Donc ils croisent des étudiants européens, l'échange de culture, de connaissances entre étudiants du Sud et ceux du Nord. Après tout, nous sommes tous des voisins. Ou encore Ati à Dakar, étudiante à l'université Cheikh Diop, je remarque qu'il y a tellement d'étrangers. Alors là, je pense qu'elle englobe les étrangers, tous ceux qui ne sont pas sénégalais. Et c'est vrai qu'ils sont très nombreux à l'UCAD, que nous avons l'impression, poursuit Ati, de ne plus être au Sénégal, mais c'est ce qui fait son charme. Allez, on a envie de vous entendre de vive voix maintenant. 33 1 84 22 71 71.
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Et tout de suite, je vous propose d'écouter le témoignage de Jérôme Perrault, 21 ans, étudiant à Sciences Po Paris. Comme tous les étudiants, il devait effectuer sa troisième année donc à l'étranger. Alors, il aurait pu choisir une université américaine, canadienne, européenne, voire australienne. Il a choisi un campus africain. Nous l'avons rencontré il y a quelques mois à Accra, au Ghana, sur le prestigieux campus du GIMPA. Le GIMPA, c'est le Ghana Institute of Management and Public Administration, qui forme entre autres les hauts fonctionnaires. Donc une sorte de l'ENA africain. Il nous a raconté son choix singulier.
On est des étudiants blancs sur toute l'université.
les gardes nous connaissent, les gens nous connaissent, parce que forcément on peut pas se cacher. Ça a des côtés très positifs. Les gens viennent nous parler, donc c'est assez facile d'accès. Quand on n'est pas forcément de bonne humeur ou qu'on n'a pas forcément envie de parler à tout le monde en allant à ses cours le matin, bon bah on doit faire avec. Mais c'est assez drôle parfois de. Dans son cours, bon bah le professeur va nous regarder, va nous dire mais qu'est-ce que vous faites là? Vous êtes un observateur? Vous êtes obligé d'expliquer non, je suis pas un observateur, je vais être là pour tout le semestre. Pour beaucoup d'étudiants, c'est pas compréhensible. Plusieurs fois, on m'a fait la remarque, mais pourquoi venir étudier ici alors que t'as des très bonnes universités en France? C'est à nous de justifier pourquoi le Ghana, c'est un pays qui est vraiment beau à voir et qui a des choses à faire ici. On découvre déjà un mode de vie qui est assez différent, des méthodes pédagogiques qui ont rien à voir et des difficultés pour les étudiants qui sont confrontés, bah, par exemple ici la plupart travaillent, donc ils ont une vie à côté, ils ont leur famille à côté, et donc bah, il va y avoir moins de vie associative forcément, mais quand on rencontre un étudiant, on va rencontrer aussi la famille qui est derrière et tout son mode de vie, et ça c'est intéressant pour s'intégrer dans le pays que de découvrir en fait ces étudiants-là. On rencontre parfois des difficultés pour, par exemple, obtenir les slides, pour obtenir la date et l'heure de l'examen. Hier encore, je suis arrivé devant ma salle d'examen et 5 minutes avant l'examen, on m'a dit que finalement ça avait été déplacé. Aujourd'hui, je viens d'apprendre qu'un autre examen qui avait lieu demain sera finalement déplacé la semaine prochaine. Mais je l'ai appris par une fille dans une voiture et sinon je l'aurais jamais su, je serais arrivé demain à l'examen. Donc c'est réussir à toujours se tenir au courant, toujours être intégré parce que sinon eh ben, on peut louper une information et passer à côté de quelque chose. Ici c'est vrai que c'est des choses qu'on fait peu en France. Les étudiants par exemple au GIMPA travaillent beaucoup sur ce qu'ils appellent des group discussions. Dans chaque classe, ils sont affiliés à un groupe et ils travaillent dans ce groupe-là. Donc à la fin de chaque cours, ils restent ensemble et ils discutent du cours, qu'est-ce que certaines personnes n'ont pas comprises. Et du coup, ils se connaissent très bien et participent vraiment à des travaux entre eux. Il y a une solidarité entre eux. Je pense qu'ici, le cours est attractif. L'humour est très important. Le professeur a la défaut parfois de donner moins de connaissances académiques. Et ben, il va essayer de s'appuyer sur des exemples drôles, des blagues. Voilà, j'ai des professeurs qui ont ramené des boîtes de préservatifs et des boîtes d'alcool en cours et les faisaient passer pour donner des exemples, des labellisations, normes européennes, qui lançaient des débats, qui dans la classe, je sais pas, a déjà eu des rapports sexuels pour montrer comme quoi le christianisme avait fait des concessions. Nous, en tout cas à Sciences Po, on est très habitués à la dissertation à la française. Avec une méthode très très carrée, de la problématique, des plans. Ici, c'est pas du tout ce qu'il a recherché. Quand il demande un essai, il y a une question, les réponses sont dans le cours, il faut ressortir les connaissances qu'on est censé avoir apprises. Moi, au début, ça m'a vraiment dérouté parce que j'essayais tout le temps de changer un peu la question et il me disait, mais c'est du hors-sujet, je comprenais pas pourquoi. Et petit à petit, je commence à m'habituer et à me dire que bon, quand on me demande quelque chose, j'y réponds et j'essaye pas de faire le malin. Un de mes désirs quand je suis venu ici, c'était justement de ne pas y aller dans un but humanitaire. On peut venir en Afrique sans vouloir y apporter quelque chose de précis et juste pour provoquer l'échange et que ça soit un échange réciproque. Et maintenant, moi, j'aimerais justement que des étudiants de GIMPA puissent venir en France, à Paris, étudier. On peut pas nier les difficultés du continent africain, mais le fait de traiter l'Afrique comme quelque chose de totalement à part, qui ne peut pas s'en sortir parce que c'est un continent plongé dans la misère, je pense qu'un pays comme le Ghana et une université comme le GIMPA prouve totalement le contraire. J'ai eu beaucoup de difficultés dans les installations. Encore aujourd'hui, j'ai pas l'eau courante. Ça fait un mois et demi que j'ai pas d'eau courante. Et Internet, des choses assez faciles comme ça, de la vie de tous les jours, où on se rend compte, bon bah que non, on n'aura pas le haut débit chez moi. Il faut faire avec. Soit on insiste et on se rend malade. C'est ce genre de choses là qu'on apprend. C'est à trouver des alternatives et à pas foncer tête baissée dans les obstacles. Dans la résidence où je suis, tout le monde fait comme ça. Les autres étudiants m'ont expliqué toutes les astuces. Voilà, le jour où t'as pas d'eau, bah il y a telle personne qui habite là-bas qui pourra t'en donner si tu vas de ma part. Le jour où nous on en a, et bah ça sera à nous d'aller lui rendre un petit peu d'eau. Et quand il n'y a pas d'électricité, bah au lieu de passer 10 heures à attendre à la compagnie d'électricité, tu peux appeler telle personne qui va t'aider. Et donc il faut être assez serein, je pense. Les choses bougent ici. Quand je suis arrivé en mois d'août dans ma rue, il y avait pratiquement aucune maison, et en 6 mois de temps, il y a 6 maisons qui sont construites dans la même rue. Je suis sûr qu'à la fin de l'année, toute la rue sera finie d'être construite. Et c'est ça qui est intéressant à voir ici, c'est de voir comment les choses bougent. On voit que quelque chose se passe ici. C'est vrai que ça surprend toujours les gens qui se demandent quelle motivation on peut avoir, parce que généralement on pense aux États-Unis, à l'Australie. C'est vrai que ça reste une minorité de gens qui partent en Afrique subsaharienne. On nous le présente explicitement avant de partir en disant bah, vous avez le choix entre des grandes universités, Columbia, Harvard, et vous avez aussi le choix entre vivre une expérience différente dans un pays qui va vous apprendre énormément de choses et qui peut faire là, la différence sur un CV, parce que voilà, vous êtes capable de vous adapter dans n'importe quel milieu. Et je pense que le Ghana fait partie de ces choix-là un peu insolites.
What do you think about him? He is the only person from France so far. And he's been very sociable and nice.
7 milliards de voisins, c'est sur RFI.
Jérôme Perrault, la coqueluche du campus du Guimpa à Accra. Beaucoup de rencontres sentimentales. J'ai l'impression aussi. Réaction Capucine Edou de la direction internationale de Sciences Po. Vous connaissez certains de ces étudiants qui partent
sur
les campus.
Oui, bien sûr. Puis je connais le Guimpa pour avoir monté le partenariat. Je suis très très heureuse d'avoir entendu tout ce qu'il a dit, parce que il met bien l'accent sur, d'une part, la dimension de l'expérience, qui est une expérience globale. Et effectivement, eh bien, s'adapter parce qu'il n'y a pas d'eau, savoir se connecter, savoir discuter avec les autres pour trouver les bonnes informations, c'est un élément qui est extrêmement important. Et c'est vrai qu'il a aussi signalé que c'est quelque chose qu'il pourra lui-même aussi valoriser à l'avenir.
Mais pourquoi Sciences Po a souhaité nouer aussi des partenariats sur le continent africain, alors que vous avez tellement de partenariats ailleurs avec les plus grandes universités dans le monde? Vous allez me dire, pourquoi pas l'Afrique?
Ben oui, déjà, pourquoi pas l'Afrique? On a des partenariats sur le continent américain, mais aussi en Asie, enfin partout dans le monde. Et on souhaite aussi apporter à nos étudiants une vision très large de la façon dont ça se passe dans différents pays. Et en fait, on a des programmes qui sont aussi spécialisés sur des zones géographiques. Donc, c'est vrai que les étudiants qui sont dans le programme Europe-Afrique de Sciences Po, eux, pour une grande partie, partent sur le continent africain pour étayer un petit peu leurs connaissances avec des choses un petit peu plus concrètes. Mais c'est aussi, et il l'a signalé également, je mets aussi l'accent sur la dimension de l'échange. Et il le disait, il n'est pas parti dans une logique humanitaire. Il est parti là-bas pour avoir une vraie expérience de tout point de vue, humaine, académique, etc. Et nous, ce que l'on souhaite faire à Sciences Po, et ce que l'on fait, ce qu'on a aussi développé avec les universités africaines, ce sont des partenariats d'échange. Donc, il est aussi très important que les étudiants de ces universités africaines viennent aussi à Sciences Po.
Ils sont évidemment beaucoup plus nombreux à demander à venir à Sciences Po que l'inverse,
c'est
quand même.
Pas si évident que ça, en fait, parce que déjà, il faut qu'ils aient les moyens de venir. Ça, c'est une première dimension. Et puis, dans les universités, comme par exemple le Guinpa, justement, les universités anglophones, ils connaissent pas Sciences Po.
Donc
nous, on bosse aussi
pour l'expertise française. Amaury Lefranc et Malo Le Segretin, vous avez 20 ans tous les deux?
C'est ça, 20 ans.
Donc, vous êtes partis 7 mois à l'Institut supérieur de management, donc l'ISM, une des plus anciennes écoles de commerce de Dakar, une école privée, donc une business school, un peu, on pourrait dire. Pourquoi un tel choix? Pourquoi vous avez choisi ça? Ou vous auriez pu partir ailleurs, non? À partir de votre école à Lille, vous étiez dans une école de commerce, enfin, vous êtes toujours dans une école de commerce à Lille.
Moi, je dois dire que ce témoignage de c'est Jérôme, c'est
Jérôme,
ça?
Ouais.
Jérôme, oui. M'a bien plu. Parce que justement, comme vous l'avez dit, il a englobé plusieurs notions. Et effectivement, nous, on n'est pas partis non plus dans une logique humanitaire. On s'est dit, on veut avoir une vraie expérience de la même façon. Et du coup...
Mais pourquoi Dakar?
Parce que Dakar, c'était...
Vous avez hésité entre plusieurs destinations au départ? Vous aviez
dit, on avait un vaste choix de destinations à l'école. Et on a privilégié avec Malo un peu l'aventure, entre guillemets, c'est-à-dire quelque chose de nouveau qui nous sort un peu de notre condition.
Alors, il y avait quoi? Il y avait Yaoundé dans vos choix, Casablanca, c'est ça, et Dakar. Ah oui, d'accord.
C'était les trois villes africaines.
Dakar, la Teranga et la mer. Et les belles filles.
C'est ça. Et du coup, avec Yaoundé, effectivement, finalement, quelques jours après, il s'est passé l'incident au Cameroun, l'incident avec les Français enlevés. Ouais. Donc, on était plutôt remerciants de ne pas avoir choisi le Cameroun à ce niveau-là. Mais c'est vrai que...
Quelles étaient justement les réactions de votre entourage, pas forcément familial, mais quand vous avez dit moi je vais faire mes 7 mois, je vais les faire à Dakar, c'est yeux écarquillés, c'était quoi chez vous?
C'était beaucoup d'étonnement,
ouais, une surprise pour eux, ouais.
C'est une vraie surprise, pas mal de gens qui savaient pas exactement où c'était Dakar, exactement quel genre de ville c'était. Mais donc on les a rassurés à ce niveau-là en leur disant que c'était très correct comme ville et on peut très bien y habiter en étant français. Et après,
il y en a beaucoup de Français là-bas.
Beaucoup de Français, pas beaucoup de notre âge.
Non.
Et ensuite, ouais, c'était de l'étonnement et un peu de la surprise, mais on a su bien le justifier, comme on l'a dit tout à l'heure, pour l'aventure, etc. Et on était un bon groupe d'amis à y aller ensemble, donc c'était rassurant.
Vous nous appelez, les voisins et les voisines, si vous souhaitez questionner Amaury Malo, donc ex-étudiant de l'ISM qui ont passé 7 mois en tant qu'étudiant français à l'Institut supérieur de management à Dakar. 33 1 84 22 71 71.
C'est un village mondial, donc on est tous des voisins, tous ensemble.
7 milliards de voisins, et entre nous là, entre les voisins. Hein?
7 milliards de voisins, c'est vous qui faites l'émission.
Je me fais le porte-parole de l'Aziz qui veut vous poser une question. J'aimerais bien connaître les différentes impressions de ces étudiants dès leur premier pas dans un environnement coloré, il met des guillemets, avec un système d'administration différent.
Alors effectivement, on était confronté à un système comme il dit d'administration différent. Au début, ça a été un petit choc parce que c'est vrai que les choses fonctionnent très différemment en France. Généralement, ce qu'on a l'habitude de faire en France assez rapidement va prendre beaucoup plus de temps à Dakar. On s'en est rendu compte, on a dû s'adapter, mais ça fait aussi partie de l'expérience. Mmh. Et c'est quelque chose qui, au final, nous a pas tant dérangé que ça.
On a eu les coupures d'électricité.
On a eu ça aussi, les coupures d'eau pendant plus de 3 semaines.
Et nous, c'était en pleine saison chaude. C'était pleine saison. La saison des pluies venait de se terminer. Et c'était en septembre. On a eu 20 jours de coupure d'eau et on s'est retrouvé à... Bon, on peut le dire, on n'a pas pris trop de douche, quoi.
Mais comme ça a été dit, il y avait beaucoup d'entraide et avec les habitants du quartier, etc. Et du coup, on s'en est sorti quand même très facilement.
Capucine Ledoux, alors à Sciences Po, pour nouer les partenariats, justement. Oui, par les administrations, établissements.
Et c'est vrai que vous étiez à l'ISM, vous avez aussi eu la chance d'avoir Blanche, qui est donc personne qui s'en occupe, qui s'occupe des partenariats à l'ISM. Et c'est vrai que c'est pas tout à fait la même chose dans une université ou dans une école.
Publique, où il n'y a pas forcément un bureau pour l'accueil des étudiants étrangers.
Il peut y avoir un bureau, mais disons que la structure est moins organisé, le nombre d'étudiants est beaucoup plus important et c'est vrai que dans une école comme l'ISM ou comme d'autres établissements, ils ont davantage aussi cette idée qu'il faut aussi que eux s'internationalisent et donc il est extrêmement important qu'ils sachent accueillir les étudiants internationaux sur leur campus de la meilleure façon possible. Donc à l'ISM, c'est le cas aussi dans d'autres établissements, ils aident les étudiants à trouver un logement, ils aident les étudiants à s'installer. Alors après, c'est plus ou moins facile parce que on reste quand même dans des contextes dans lequel il y a certaines difficultés, mais c'est aussi des contextes dans lesquels il y a aussi d'autres facilités qu'on n'a pas forcément en France.
Ouais.
Et donc dans les écoles, il y a souvent, c'est vrai, des gens qui vont vraiment aider les étudiants, les prendre par la main, un bureau qui est ouvert et des gens disponibles. Dans des grandes universités africaines, c'est parfois plus compliqué. Et c'est vrai que nous, on a eu des expériences d'étudiants qui sont partis, les premiers qui sont partis
livrés à eux-mêmes,
au Kenya ou en Ouganda, etc. C'est vrai que c'est plus compliqué. Donc, on choisit aussi des étudiants.
Des étudiants qui vous appellent désespérés, qui disent on n'y arrivera jamais.
Parce que ils ne sont pas forcément désespérés parce que. Oui, non, mais c'est vrai que ce n'est pas facile et c'est pour ça qu'on fait très attention
après
aussi.
Après tout, vous n'avez que 20 ans. Hein,
Oui,
ils sont très jeunes. On fait attention à, essayer de ne pas les envoyer seuls dans un pays quand c'est la première fois qu'on envoie des étudiants dans une université, pour qu'il y ait effectivement cette dimension de solidarité, et aussi évidemment on fait le go-between avec les universités sur place.
Vous êtes partis tous les deux, vous étiez plusieurs, il y en avait
d'autres
aussi.
Alors on était un bon groupe de Français quand même, on était 5 de notre école, on était un noyau dur de 5 élèves.
Et vous aviez choisi de louer un appartement en commun.
Voilà, exactement. Ouais. En fait, on est arrivé sans logement, mais on a été aidé par l'université en fait. Pour rebondir, on avait un interlocuteur très agréable et qui nous a beaucoup aidé en arrivant. On nous a présenté un courtier, après ça nous a vraiment aidé. On a quand même dû se débrouiller.
Et, vous êtes intégré quand même au milieu des autres étudiants qui sont, il y a une grande diversité de nationalités, mais ils sont essentiellement du continent africain. Vous êtes intégré?
On s'est intégré. On s'est fait des amis, on a rencontré beaucoup de gens. Après, c'est vrai que c'est pas forcément la même chose. On a plus de mal à nouer des vraies relations directes.
Bon, on va en parler tout au long de l'émission et puis également ce qu'on apprend quand on fait un échange de ce type. Vous restez avec nous, suite des discussions juste après le flash. Étudiants européens ou américains dans les campus africains, les voisins, les voisines, évidemment vos questions, vos témoignages au 33 1 84 22 71 71.
Tous les cinémas du monde. Sébastien Gédor. on lui doit nos plus grands fous rires au cinéma. Émission spéciale avec la scénariste et réalisatrice Danielle Thompson. Rabbi Jacob, Le Corneau, La Boum, La Bûche, c'est elle. Sans oublier La Reine Margot, film historique sanglant de Patrice Chéreau qui ressort en DVD et Blu-ray.
Tous les cinémas du monde. Sébastien Gédor.
Samedi, à partir de 15h10 TU.
RFI.
Vous écoutez RFI, les 10h30 en temps universel, 12h30 à Paris. Le flash présenté par Juliette Rangeval. Bonjour Juliette.
Bonjour. Il n'y a aucun survivant après le drame du vol AH-57, l'avion d'Air Algérie qui s'est écrasé au Mali. C'est ce qu'a confirmé ce matin le président français François Hollande au sortir d'une réunion de crise à l'Élysée. 118 personnes étaient à bord, dont 51 ressortissants français notamment et 23 burkinabés. Le chef de l'État a précisé qu'une boîte noire de l'appareil avait été retrouvée. Elle est en cours d'acheminement vers Gao par les militaires français qui ont sécurisé la zone. Toutes les hypothèses, notamment climatiques, sont désormais étudiées pour expliquer cette catastrophe aérienne, a dit le président Hollande. Le ministre turc des Affaires étrangères se rend au Qatar pour tenter de négocier une trêve pour Gaza. Les efforts diplomatiques se poursuivent au 18e jour de l'offensive israélienne qui a causé la mort de plus de 800 Palestiniens, des civils essentiellement, 34 morts côté israélien, dont 2 civils. L'opération israélienne contre la bande de Gaza vise le Hamas, le mouvement islamiste qui a encore revendiqué ce matin le tir de 3 roquettes contre l'aéroport international Ben Gurion de Tel Aviv. Aujourd'hui, les mouvements palestiniens appellent à un jour de colère avec des manifestations massives en Cisjordanie et dans Jérusalem-Est. Des manifestations de soutien au peuple palestinien sont également prévues en Iran notamment et à Berlin en Allemagne. La crise politique s'ajoute aux affrontements en Ukraine. Ce matin, le président Petro Poroshenko a demandé au Parlement de ne pas entériner la démission du Premier ministre Arseniy Yatsenyuk et de son gouvernement. Les parlementaires doivent se prononcer aujourd'hui sur cette démission surprise suite à la désintégration de la coalition gouvernementale. Sur le front de l'Est, où l'armée régulière combat depuis 3 mois maintenant les rebelles favorables à Moscou, Kiev annonce que les forces ukrainiennes ont repris aux séparatistes la ville de Lysychansk. Et puis d'après l'ONU, les combats ont fait ces derniers mois 100 000 déplacés et 130 000 personnes qui se sont réfugiées en Russie. En Russie, il y a de la prison ferme pour les opposants au président Poutine. Sergueï Udaltsov et Léonid Razvojaïev écopent de 4 ans et demi de prison pour avoir organisé des manifestations à la veille de l'investiture de Vladimir Poutine pour un 3e mandat en mai 2012. Ils ont été condamnés hier. Et ce matin, Sergueï Udaltsov a commencé une grève de la faim. Des nouvelles de cette Soudanaise qui a échappé récemment à la peine de mort pour s'être convertie au christianisme au Soudan. Mariam Yahya Ibrahim est arrivée hier en Italie. Quelques heures plus tard, elle a rencontré le pape François en compagnie de son mari et de ses enfants. Le pape qui l'a remercié pour avoir témoigné de sa foi selon un porte-parole du Vatican. Tout petit mot du Tour de France cycliste après les Pyrénées. Retour en plaine aujourd'hui. Et l'Italien Vincenzo Nibali, plus que jamais en jaune. Il est 12h33 à Paris. Vous retrouvez Emmanuel Bastine et 7 milliards de voisins.
7 milliards de voisins, on est ensemble.
Bienvenue si vous nous rejoignez, 7 milliards de voisins sur RFI, sujet éducation comme chaque vendredi, les étudiants européens ou américains dans les campus africains. On ne sait pas combien ils sont à l'échelle du continent, mais c'est vrai, on croise au compte-gouttes sur les campus subsahariens cette minorité visible. 2 étudiants français viennent de passer 7 mois à l'ISM de Dakar, l'Institut supérieur de management. Et bien sûr, vous pouvez leur poser des questions à Amaury et Malo qui sont dans le studio 33 1 84 22 71 71. Et Capucine Edou, vous appartenez à la direction internationale de Sciences Po. Vous croisez-vous aussi des étudiants américains dans les campus africains avec lesquels vous nouez les partenariats entre Sciences Po et ces campus africains. Est-ce que vous diriez qu'il y a des motivations, des exigences différentes, une vision culturellement aussi différente de la part des Américains qui choisissent eux aussi de nouer des partenariats comme vous le faites avec les campus africains?
Oui, ils choisissent de nouer des partenariats, mais ce sont des partenariats d'une nature différente, souvent. D'ailleurs, moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surprise quand j'ai commencé à nouer des partenariats avec des universités africaines, anglophones en particulier, parce qu'ils sont plus présents sur le monde anglophone. Souvent, les universités américaines achètent des prestations aux universités africaines. C'est-à-dire que ils vont construire des programmes spécifiques pour leurs étudiants, des programmes sur des sujets, sur la thématique environnementale, sur la thématique de la santé publique, ou voilà, des sujets comme ça. Et du coup, les universités africaines construisent des programmes spécifiquement pour les étudiants américains, donc de ces universités-là. Et donc, ils payent. Elle paye une prestation à ces universités. Et c'est vrai que, alors, c'est pas...
Ça change un peu l'esprit?
Ça change l'esprit, ça change le rapport aux partenaires, parce que quand moi je suis arrivée dans certaines universités en disant, mais non, mais on va faire un partenariat d'échange, on va faire de l'échange,
ouais, c'est-à-dire pas d'argent.
Voilà, il n'y a pas d'argent en jeu. Alors nous, on peut essayer aussi de faire en sorte de trouver des bourses pour les étudiants des universités africaines pour qu'ils puissent venir étudier un semestre ou une année à Sciences Po, mais notre logique, elle est celle-là. Elle est vraiment de croiser les expériences et d'intégrer les étudiants dans les établissements. C'est pas le cas de l'ensemble des universités américaines. Hein. Certaines envoient aussi, et après ça dépend aussi un petit peu du contenu des études des étudiants. Les étudiants qui sont dans les départements d'études africaines ou qui sont dans des départements d'anthropologie, etc.
Ceux, ils ont toujours été là.
Ils ont toujours été là. C'est un petit peu la logique même qu'ils puissent partir sur leur terrain de recherche. Et donc, mais ce sont des logiques un petit peu différentes. Mais
justement, parce que vous, Amaury et Malo, vous n'êtes pas venu à l'ISM pour... Bon, vous êtes dans une école de commerce à Lille. Vous n'êtes pas venu à Dakar pour étudier comment faire du business en Afrique.
Bon, c'était pas le seul but de notre voyage, mais finalement, on a appris quand même là-bas beaucoup comment fonctionnait le business, entre guillemets, là-bas, les affaires, les contacts et les relations. Finalement, on était obligé de l'apprendre pour s'en sortir.
Mais ça, vous l'avez appris comment?
Dans la rue, à ce niveau-là.
Ah oui.
Au niveau académique,
quand vous avez meublé votre appartement.
C'est ça. Au niveau académique, on est venu pour compléter un programme qu'on avait commencé à Lille. Et finalement, au bout d'un an, on peut dire que c'est une mission réussie parce qu'on a eu des cours qui étaient structurés dans une école qui finalement tient tout à fait la route, comme on peut dire. Enfin, c'est voilà, il y a des cours qui étaient similaires à ceux qu'on avait pu avoir en France.
Alors justement, question d'Elisa qui est à Madagascar. Mm-hmm. Comment vous avez trouvé la qualité des études dans l'université dans laquelle vous étudiez? Donc, en l'occurrence, une école privée de commerce.
Maurice, tu veux...
Bon, alors, cash, hein.
Cash, écoutez, c'est des études assez normales. Enfin, on est dans une salle de classe, on écoute le professeur. Après, la manière de faire est différente, tant dans l'organisation que dans la participation des élèves, qui aiment beaucoup rebondir. Il y a beaucoup de débats qui se créent en classe, en fait, entre les élèves et le professeur, et surtout entre les élèves. Et du coup, en fait, ils sont beaucoup plus impliqués dans le cours. Et ce qui fait que parfois ça avance.
Par rapport à chez vous à Lille où vous êtes assis sagement,
vous notez.
Par
tout ce que j'ai pu connaître à Lille et au lycée, etc. Les élèves sont plus appliqués, plus attentifs. Mais du coup, ça part parfois en débat et ça fait en sorte que le cours n'avance pas tellement finalement.
Et j'ajouterais aussi que par rapport aux problématiques qui sont abordées, c'est beaucoup de problématiques, comme on peut s'en douter, africaines. Et du coup, pour nous, c'est très intéressant de voir ça parce qu'effectivement, on est beaucoup plus habitué à avoir des. Quand on donne des exemples, par exemple, dans n'importe quel sujet, ça va être des exemples qu'on connaît, européens, français, américains. Et là-bas, ils vont bien sûr donner des exemples de chez eux, des exemples sénégalais, africains, locaux.
Et c'était compliqué du coup.
Et,
parfois,
du coup,
suivre,
non, pas forcément. Mais pour nous, c'était une ouverture supplémentaire parce que ça nous permettait aussi de connaître d'autres choses qu'on n'aurait vraiment pas pu connaître autrement. C'est des... n'importe quoi. Quand on étudie un modèle économique, voilà, ils vont nous dire cette telle entreprise l'applique dans ce domaine-là. Et c'est vrai que pour nous, c'était intéressant aussi d'apprendre ça.
Mais par exemple, les spécificités qu'on peut trouver sur le business dans un continent du Sud comme le continent africain, je sais pas, l'extraordinaire inventivité du téléphone, la façon d'acheter de l'unité, transférer, etc. Ouais. Tout ça, ça n'existe pas en Europe. Est-ce que ça, c'est étudié aussi en tant que business model? Vous avez appris, vous avez décodé business-là ou pas
en
tellement
fait, on a compris que là-bas, tout se faisait au court terme en fait. Ouais. Les gens achètent ce qui leur suffit pour le moment. Peut-être par problématique qu'il n'y a pas assez d'argent pour acheter au long terme, mais ils achètent tout au court terme, ce qui fait que tout s'achète dans la rue à petite somme, que ce soit pour tous les besoins téléphoniques, de nourriture, de boissons.
Je me rappelle d'un exemple tout simple. On avait un petit shop en face de chez nous et en fait ils vendaient du sel, du sucre à l'unité. Donc pour une tasse de café, ils vendaient du sucre à 50 francs, l'équivalent de 7 centimes d'euros.
Mais ça c'est théorisé ensuite à l'ISM ou pas? C'est décortiqué ou pas en tant que tel? Parce que pour eux c'est naturel.
Étant donné que c'est si naturel pour eux, forcément on l'étudie un petit peu, on en parle, mais c'est pas les cours.
Ouais. Vous auriez aimé que ça soit plus théorisé justement cette réalité là à laquelle vous étiez confronté?
Bah, pour nous, ça aurait pu être intéressant, mais après, c'est des trucs qui, c'est des modèles qui sont tellement simples que finalement, ça n'a pas grand intérêt de s'attarder dessus non plus pendant si longtemps.
Mmh, surtout qu'on l'a vite compris là-bas.
On l'a vite compris rapidement dans la rue.
Alors, nous sommes en ligne avec le fondateur et le directeur de l'Institut supérieur de management à Dakar. Bonjour, Amadou Diao.
Bonjour, Emmanuel.
Amadou Diao, pourquoi cette lubie déjà de faire venir quelques étudiants français sur votre campus? C'est assez récent.
C'est assez récent, effectivement. Pendant plusieurs années, le Sénégal a accueilli des étudiants américains. Le modèle qui a été présenté par Capucine existait. Et Capucine est bien modeste, mais elle a joué un rôle d'accélérateur dans ce processus. Dans le cadre de notre partenariat avec Sciences Po, nous avons accueilli au départ un étudiant, deux, et aujourd'hui nous arrivons effectivement sur nos campus à accueillir entre 10 et 20 étudiants tous les ans. Et je précise que c'est dans le cadre d'un programme d'échange. Donc de l'autre côté, des étudiants africains, sénégalais, vont au même moment vers des écoles de commerce européennes. Donc c'est un programme d'échange, d'abord. Le deuxième point que je voudrais mentionner, c'est qu'on a affaire à une génération nouvelle de jeunes qui ont entre 20 et 23 ans et qui ont une approche différente des choses, qui ne pensent pas seulement business. Mmh. Quand ils sont dans nos écoles, ces jeunes qui sont venus nous voir, ils l'ont bien dit, c'est à la recherche d'aventure et puis tout simplement connaître l'homme avec un grand H. Mmh. C'est plus dans cette démarche, je pense, qu'ils sont venus nous voir et je les salue au passage. Ils ont marqué, ils ont joué à Maurice Commando, ils étaient des stars dans l'école. Ils sont aussi, hein. Voilà.
Mais alors justement, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter aussi à vos étudiants qui sont de très nombreuses nationalités déjà? Votre école est très ouverte sur le reste du continent.
Une forme de voyage sans quitter l'école pour les étudiants qui sont ici. Mmh. Échanger avec un jeune français, échanger avec une étudiante suisse, et c'est une forme de voyage mieux que découvrir l'autre. Mmh. Et je pense que cette génération est plus à même de percevoir ces choses-là. Mmh. Et c'est un processus nouveau, je le répète, Capucine a joué un rôle important dans la mise en place de cette démarche-là. Et autre point à mentionner, c'est qu'aujourd'hui, au-delà de l'Europe, c'est la vague asiatique aussi qui démarre. Mmh. Les étudiants asiatiques commencent à venir sur nos campus.
Ah, vous avez des étudiants chinois chez vous, par exemple?
Pour le moment, c'est la Corée. Nous travaillons avec la Corée. Ce sont des échanges toujours. Nous envoyons des étudiants et nous en recevons. Ouais. Voilà.
Vous avez combien d'étudiants sud-coréens?
Sur la Corée, nous travaillons sur des programmes courts et des échanges de 15 à 20 personnes.
Voilà. C'est difficile pour les Sud-Coréens, c'est plus difficile que pour des Français de s'intégrer à Dakar?
C'est certainement plus difficile, ils restent quand même dans un programme très plus enfermé, mais par contre une ouverture, ils ont envie de connaître, de découvrir, et on le fait avec plaisir. Et de l'autre côté, ils accueillent nos étudiants aussi en Asie. Voilà.
Restez à l'antenne avec nous, Amadou Diao. Un auditeur nous appelle au 33 1 84 22 71. 71. Nous sommes en ligne avec Mohamed. Bonjour.
Bonjour. Vous allez bien?
Oui, vous nous appelez des États-Unis, je crois.
Oui, je vous appelle des États-Unis. Et je vous appelle de Atlanta.
Nous vous écoutons, Mohamed.
Ok. Moi, je voudrais demander au monsieur ou à l'étudiant qui a choisi de faire ses études au Sénégal. Bon, j'ai pris l'émission en cours, mais je voudrais exactement qu'il me dise. Ne pas étudier en France et aller étudier en Afrique dans une université africaine, qu'est-ce que ça apporte de plus par rapport aux études dans les pays développés?
Oui, alors attendez, c'est pas qu'ils ont décidé de ne pas étudier en France, hein. On reprécise bien puisque vous avez pris l'émission en cours de route, hein. Malo, Amaury et puis Jérôme qu'on a entendu en début d'émission, ils sont déjà dans une école française et ils choisissent d'effectuer une partie de leur cursus à l'étranger. Bon, ça, en général, souvent c'est obligatoire, mais au lieu d'aller aux États-Unis, bah par exemple à Atlanta où vous êtes, Mohamed, ils ont choisi d'aller à Dakar ou à Accra, au Ghana, puisque ce sont les exemples que nous avons. Néanmoins, la question est pertinente.
Oui, tout à fait.
Alors,
Du coup, au niveau académique, moi je dirais que c'était une continuation du cursus. On a eu des matières aussi variées qu'on aurait pu avoir à l'ISSEG, hein. On avait de l'économie, on avait des maths appliquées, on avait des cours de langue. Enfin, voilà. Donc au niveau académique, c'était juste une continuation. Après, au niveau personnel, c'est quelque chose qui était une expérience supplémentaire, quelque chose de très intéressant pour nous. On a eu envie à ce moment-là de découvrir un continent qu'on ne connaissait pas. Moi, ça m'intéressait énormément, et parce que j'avais parce que j'avais mon papa qui était parti en Afrique plus
quand j'étais plus jeune. D'accord, voilà, coup, ça y est, on saura tout.
Voilà. Donc du coup, ça m'a beaucoup intéressé de partir en Afrique pour ces raisons-là, et donc j'étais plus que partant pour faire mon expérience en Afrique.
Capucine Edo, oui. Sciences Po.
Enfin, je veux effectivement insister sur le fait que c'est une année d'études à l'étranger dans le cadre d'un cursus de Sciences Po pour ce qui concerne Sciences Po, mais c'est également le cas pour les autres établissements. Donc, nous validons les crédits, les cours qui sont pris par nos étudiants dans ces universités partenaires. Et donc, c'est vrai qu'il y a aussi pour nous une dimension, de validation de la qualité, évidemment, de nos universités partenaires, du cursus que suivent nos étudiants dans ces établissements. On vérifie vraiment le nombre de cours qu'ils prennent, quels cours ils prennent, etc., pour que ça puisse entrer dans le cadre du cursus.
C'est ça, Dakar au bord de la mer, ça ne suffit pas, donc on a bien compris.
Ben, c'est ça.
Amadou Diao, néanmoins, en ce qui concerne le contenu des enseignements à l'ISM, vous avez entendu le témoignage de Malo et Amaury qui disent, par exemple, à Dakar, il y a énormément de discussions. Bon, on connaît la passion des Sénégalais pour le débat en général, et a fortiori quand il est politique, et encore plus en période électorale, mais ils disaient, parfois ça ralentit le cours, il est vrai, il faut bien le reconnaître.
Oui, ça peut ralentir le cours, mais ça peut apporter autre chose. Et je crois que c'est une démarche nouvelle. Pendant longtemps, on était dans des universités ici, il n'y avait pas de débat pendant les enseignements, pendant les cours, le professeur professait, tout simplement. Et avec l'émergence des écoles de commerce, je pense que ce type de pédagogie, c'est une étape nouvelle. Aujourd'hui, il y a un échange entre les étudiants et les enseignants. C'est déjà une étape.
Ça vient que vous vous calez un peu sur un modèle anglo-saxon, là, finalement, des business schools, hein, avec ce côté cas pratique, échange.
J'ai l'habitude de vous dire, Emmanuel, un modèle international, tout simplement. Aujourd'hui, je crois que le monde consomme.
Ça, c'est discutable. Qu'est-ce qui est international?
Ça s'internationalise. Voilà. Quand on va dans une école de commerce en France, je pense qu'il y a discussion, débat, participation. Aujourd'hui, on l'a dans beaucoup d'écoles asiatiques.
Mais quand vous allez voir des établissements d'enseignement supérieur en France et que vous leur dites « Envoyez-moi des étudiants français, je me débrouillerai pour valoriser leur expérience », quels sont vos arguments ?
Quels sont nos arguments ? Aujourd'hui, donc, nous sommes dans un environnement économique différent. Les taux de croissance annoncent au continent africain font qu'il faut connaître ce continent. On ne peut pas le laisser en marge. Et il est insuffisamment enseigné dans bien des écoles de commerce particulièrement. Et c'est là que je salue une démarche de Sciences Po et la démarche des écoles qui ont accepté de s'ouvrir. Donc l'Afrique est encore trop peu et trop peu, a une trop petite place dans les programmes encore.
Les nouvelles prévisions de
vivre l'Afrique, c'est un peu.
Sur le plan économique, les nouvelles prévisions de croissance et puis également tout ce qui s'y passe sur le plan géopolitique. Aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une attention très spécifique sur le continent africain, Capucine Edo. Ça joue aussi dans le choix des étudiants ou pas?
Je pense que c'est extrêmement important de mentionner ça parce que quand on a construit, nous, notre politique, la politique de Sciences Po en direction de l'Afrique, on a beaucoup dialogué avec les autorités françaises, avec des entreprises, etc., pour savoir aussi quelles étaient les attentes en France et en Europe concernant les connaissances que les étudiants pouvaient avoir du continent africain. Et c'est vrai que il y a aujourd'hui des manques énormes dans les établissements français par rapport à ce qu'on peut savoir de l'Afrique.
Compris chez les étudiants de Sciences Po qui sont censés être quand même très triés.
C'est vrai. Et donc du coup, le fait de nouer tous ces partenariats et de développer, donc pour nous on a vraiment développé une vraie politique en direction du continent africain, essayer d'inviter des enseignants aussi africains qui viennent à Sciences Po pour donner des cours également, parce que il y a aussi la vision que eux peuvent avoir de leur propre terrain et contexte est aussi extrêmement important.
Amadou Diao, vous les trouvez très ignorants, les étudiants français, quand ils viennent à l'ISM concernant l'Afrique, les réalités de l'Afrique, géopolitique, économique?
Soyez gentil avec nous, monsieur Diao.
Non, vraiment, ils ont su participer, intégrer le système sans difficulté. Par moments, nous avons voulu même peut-être un peu trop les cocooner en termes d'hébergement, et ils ont tenu à se débrouiller, à s'organiser, à vivre les réalités. Donc pour cela,
Alors, faut qu'on avance quand même, parce que l'émission touche à sa fin. Comment on valorise cette expérience-là ensuite quand on passe des entretiens? Alors vous n'avez que 20 ans pour le moment, Maurice Malou, je pense que vous ne passez pas d'entretien professionnel, mais forcément vous y avez pensé, non? Quand vous serez en face d'un recruteur, on va voir votre CV, tiens, 7 mois à Dakar, qu'est-ce que ça a été faire là-bas, au lieu d'aller aux États-Unis, en Australie?
Ouais, bien sûr, c'est une question qui est très pertinente, parce que ça suscite l'étonnement. Et je pense que si on sait bien l'expliquer, on va forcément pouvoir rebondir là-dessus et le mettre en valeur, dans le sens où c'était une vraie épreuve d'adaptation, de patience, de débrouillardise pour n'importe quel Français ou étranger qui vient en Afrique. Et c'est une expérience complètement nouvelle. Et ça prouve qu'on a quand même un peu le goût de l'aventure et le goût du risque.
Ça va suffire à Maurice, ça, comme justification? Je sais me débrouiller, je sais marchander.
Bien sûr que non, mais c'est un plus. C'est un plus comme toute expérience.
Non, moi je pense qu'effectivement Amaury, j'ai la même vision que lui à ce niveau-là. On en a beaucoup parlé quand on était tous les deux cette année. Effectivement, je pense que c'est quelque chose qui peut apporter un plus sur un CV, au moins susciter la curiosité de la part d'un éventuel.
Je pense que les entreprises évoluent. Ils partent, eux, en troisième année. Ils ne sont pas en master. Ils ne sont pas dans une logique de spécialisation professionnelle. Et donc, c'est quand même aussi encore un petit peu différent. Parce que ça, je pense que c'est encore un autre sujet. Et je pense qu'aujourd'hui, effectivement, on a un certain nombre de... Le monde du travail est plus ouvert aussi à ce que fait cette nouvelle génération qui s'ouvre et qui sait justement tirer avantage de ces nouvelles opportunités. Et nous, ce qu'on voit à Sciences Po, c'est que les étudiants qui vont aux États-Unis, en Angleterre, etc., c'est pas les mêmes profils que ceux qui décident d'aller en Afrique. Alors, je pense que ceux qui décident d'aller en Afrique sont un petit peu plus éclairés. S'attendent pas forcément, ils ont pas forcément une idée très précise de ce qu'ils vont trouver, mais au moins, ils tentent leur chance et ils s'adaptent.
On entend des témoignages d'étudiants qui sont ravis. Jérôme était ravi à Accra, vous étiez ravi à Dakar, mais on va pas forcément faire seulement les bénis. Il y a des problèmes de sécurité en Afrique. Vous avez arrêté les partenariats avec des universités au Kenya, je crois, pour Sciences Po.
On n'a pas coupé les partenariats, mais en tous les cas, cette année, on n'envoie pas d'étudiants là-bas.
D'accord, pour des raisons de sécurité. Oui. Il y a des étudiants qui se sont très mal adaptés à Kampala, en Ouganda. Alors, c'est quoi le profil idéal des étudiants qui arrivent à s'en sortir? Vous n'envoyez pas n'importe qui, en quelques mots.
Non, surtout, on prévient énormément les étudiants en amont des conditions qu'ils vont trouver sur place, du fait que c'est quelque chose qui n'a absolument rien à voir. Bon, et après, chaque personne évolue, donc
un conseil peut-être passer des choses pour ceux qui nous écoutent, Malo, Amaury, le profil pour s'adapter sur un campus africain.
Pour nous, je pense que c'est vraiment difficile d'avoir un profil type d'une personne qui peut y aller ou pas, mais en tout cas, je pense que la clé pour nous, ça a vraiment été l'aspect groupe. On est parti à plusieurs, et le fait d'être plusieurs, on a pu s'aider, s'entraider entre nous, et c'était vraiment très important.
Vous étiez les premiers de votre école, que vous ont dit les étudiants de l'année d'en dessous? Vous avez suscité des envies?
Ils reprennent notre maison, ils reprennent nos motos, ils reprennent nos meubles.
On a tenu un blog en fait au cours de l'année, et ça a donné envie à pas mal d'étudiants de l'école, donc ce qui prouve que ce partenariat va continuer à exister sûrement pendant longtemps, et que c'est vraiment quelque chose qui va se développer, quoi.
Amadou Diao, en quelques mots, le profil de ces étudiants éclairés que les campus africains ont envie d'accueillir?
Oui, en un mot, en tout cas, d'abord un mot pour Amaury et Malo, au nom de vos camarades de classe, professeurs, vous nous manquez, c'est ce que je peux vous dire.
Déjà,
pour les autres, donc, venez, la Teranga sénégalaise, l'ISM fera le reste. Voilà.
Eh bien, merci infiniment à Amadou Diao, directeur de l'ISM, fondateur de l'Institut supérieur de management. Merci à vous tous, Capucine Edou de la direction internationale de Sciences Po Paris, et puis bon vent à vous pour la suite, à Maury Lefranc, Malo Le Segrétin, donc étudiant à l'ISSEC de Lille. Dans quelques instants, on inverse les échanges. Là, pour revenir alors à du très très classique, avec un programme de bourse d'études pour les étudiants de l'Afrique des Grands Lacs à destination des États-Unis. Restez avec nous. Lost on the side, I've been sad with you for most of the night. Ignoring everybody here, we wish they would disappear so maybe we could get down. 7 milliards de voisins, on parle d'éducation comme chaque vendredi sur RFI. On est en ligne maintenant avec Atlanta. Bonjour Julius Cole.
Oui, bonjour.
Julius Cole, vous appartenez au Morehouse College à Atlanta, en Géorgie. Alors ce collège, le Morehouse, c'est ce qui s'appelle chez nous une université de premier cycle, un undergraduate. Et vous avez un programme qui offre depuis quelque temps des bourses d'études pour des étudiants africains. Ce sont des bourses très ciblées. De quoi s'agit-il exactement?
Bon, nous avons donné des bourses aux étudiants africains de venir chez nous. Parce que nous sommes intéressés pour diversifier les expériences de nos étudiants ici aux États-Unis, et aussi pour aider pour former un nouveau cadre des leaders qui viennent d'Afrique. Bon, nous avons eu des bailleurs de fonds qui s'intéressent dans la région de Grand Lac. Ils ont donné de l'argent pour donner les bourses à ces étudiants au Grand Lac.
Alors, en l'occurrence, vous financez les séjours d'études pour des étudiants qui sont en République démocratique du Congo, au Rwanda, au Burundi, en Ouganda. De quoi introduire effectivement l'Afrique dans votre campus à Atlanta. Mais pourquoi seulement ces pays-là?
Parce que le bailleur de fonds qui a donné l'argent à nous a choisi ces pays. Parce que ce sont des pays qui sont au bord de grands conflits de cette région de l'Afrique.
Et qui sont ces bailleurs de fonds qui vous financent donc ces bourses?
Oui, c'est la fondation de Howard G. Buffett, qui est le fils de Warren G. Buffett. Il est une fondation, c'est une personne qui est intéressée dans les questions d'environnement et aussi des questions de stabilité dans l'Afrique centrale.
D'éducation à la paix. Les financements donc par cette fondation privée vous permet d'accueillir combien de boursiers sur votre campus à Atlanta, Julius Cole?
Oui, ici c'est la première année de cette bourse et ils ont donné assez d'argent pour avoir 5 étudiants. Et nous avons choisi 2 étudiants de Rwanda, un autre étudiant de Burundi et un de Congo. Et le troisième de l'Ouganda.
Et donc, ça veut dire que tous leurs frais d'études sont payés, y compris leurs frais de déplacement, etc., leurs frais de vie sur place?
Tout est payé. C'est vraiment une bourse qui est vraiment généreuse. Alors. Mais c'est vraiment fantastique.
Et pour cette année-là, vous avez reçu, pour 5 places, vous avez reçu combien de candidatures? Je sais qu'à l'époque, vous nous en aviez parlé dans l'émission. Hein, vous aviez lancé cet appel à candidature.
Oui, on a reçu environ 30 candidats de tous les pays, mais on a eu des contacts avec des organisations en Afrique centrale qui a nous aidé pour choisir des étudiants de bonne qualité. Bon, on n'a pas eu beaucoup de applicants, mais on a choisi vis-à-vis ces organisations. Il y a une organisation qui habite à Kigali qui s'appelle Bridge to Rwanda. Et ils ont choisi des étudiants parce qu'ils sont un programme pour former des étudiants qui viennent de Rwanda pour aller dans des grandes universités en Europe et aux États-Unis.
Il faut parler très bien l'anglais pour être sélectionné. Combien de points au TOEFL?
Oui, normalement, il faut avoir plus de 550 ou un autre score. Ils ont changé le système. Plus de 70 pour gagner entrée ici à Morehouse.
Ouais. Et puis un très bon dossier académique, hein, évidemment.
Oui, il pourrait être à la tête de classe.
Merci beaucoup, Julius Cole. Alors, évidemment, pour en savoir plus sur ce programme de bourse qui continue, hein, puisque là, les premiers étudiants, les expériences sont assez réussies, on peut en savoir plus en allant sur notre page RFI, RFI.fr. On a noté l'adresse du site. Merci infiniment. Je voulais en profiter pour signaler à nos auditeurs qu'à partir de lundi, 7 milliards de voisins, ne manquez pas le démarrage de notre série d'été en direct tous les jours. Vivre en ville pendant 2 semaines, des journalistes de RFI, d'autres invités nous racontent le quotidien dans une ville du monde. Chaque jour, ce sont eux qui choisissent le titre de l'émission. Lundi, vivre dans une ville bouillonnante, Abidjan. Mardi, vivre dans une ville sous cloche, Pékin. Soyez au rendez-vous. Vous pourrez bien sûr commenter en direct et poser vos questions via les réseaux sociaux. Dans quelques instants, ce sera le journal sur RFI. À lundi, les voisins et les voisines.